Vous écoutez un podcast Top Music.
Top Music, premier sur la région. Top Music. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
Un podcast à emporter partout.
C'est la dernière porte qu'on a envie de pousser, en fait, oui. Comme commerce, c'est la porte d'une société de pompes funèbres.
C'est un paradoxe, pour faire ce métier, il faut aimer la vie.
Nous, au travers des cérémonies, ouais. Justement, qu'on a fait de Jean-Paul Belmondo ou de Bernard Tapie, ce sont des cérémonies qui ont été filmées. Donc, ça permet de voir aussi ce qu'est une cérémonie.
Oui, mais il n'y a pas marqué, en gros...
Notre publicité,
Bertrand.
Non.
Je suis entérologue, je suis croque-mort.
Cet épisode de Podium nous emmène dans le monde très fermé des pompes funèbres, un univers discret, voire secret, et néanmoins fascinant, que nous font découvrir Véronique et Jean-Claude Bertrand. Le père et la fille nous apprennent à célébrer la vie tout en parlant de la mort. Les pompes funèbres Bertrand, c'est une affaire de famille depuis 3 générations. Quand on organise les obsèques de Jean-Paul Belmondo, de Michou, de Bernard Tapie ou de Jeanne Birkin, il faut, comme pour Monsieur ou Madame Tout-le-Monde, savoir travailler dans le respect des souhaits de chacun. Comment faire évoluer les traditions dans un métier qui obéit à des protocoles ancestraux? Comment faire évoluer les mentalités tout en restant dans la retenue? Véronique et Jean-Claude Bertrand nous partagent leur quotidien, sans tabou, et leur envie de faire progresser le métier sans aller trop loin. Un vrai challenge. Bienvenue à tous les deux.
Bonjour, merci.
Bonjour. Alors, je me trouve chez vous, dans les locaux des pompes funèbres Bertrand, et j'avoue qu'en arrivant, j'étais quand même agréablement surprise de voir un univers aussi chaleureux, aussi joliment décoré. On est dans le 15e arrondissement de Paris.
Tout à fait.
C'est une volonté de votre part pour accueillir les gens particulièrement gentiment.
Le but, en fait, c'est justement que les gens qui peuvent avoir une approche un petit peu particulière des pompes funèbres, puisque c'est un endroit où je pense que c'est la dernière porte qu'on a envie de pousser, en fait, comme commerce, c'est la porte d'une société de pompes funèbres. Donc, le but, c'est justement de rendre le lieu agréable, chaleureux, pour que justement, déjà, retirer ce petit côté qui les angoisse, en fait, de venir chez nous.
Donc, mais on prend rendez-vous pour venir chez vous, on passe pas dans la rue et puis on
les
rentre.
Les deux possibilités, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui effectivement anticipent quand ils font de la prévoyance ou donc qui ont besoin de renseignements ou que la personne est malade et que ils savent que malheureusement la personne décédera dans les semaines à venir, donc ils viennent nous voir pour avoir des renseignements. Et puis il y a les gens qui ont un décès, par exemple nous on est face à un centre de soins palliatifs, donc effectivement il y a des gens qui décèdent presque tous les jours, donc ils viennent nous voir pour un décès, et dans ces cas-là, voilà, ils spontanément poussent la porte de notre agence.
Alors, votre agence, c'est une affaire de famille. Jean-Claude, c'est vous qui l'avez créée, mais comment vous est venue cette envie, j'ai envie de dire, de travailler dans les pompes funèbres? C'est quand même particulier.
Alors moi, donc, effectivement, je suis arrivé de Bretagne en 77, et c'est mon beau-père qui était dans la profession, qui était aux pompes funèbres, et qui m'a fait découvrir ce métier, qui pour moi était quelque chose d'assez lointain. Et effectivement, alors j'étais ambulancier, j'avais une approche des hôpitaux, des endroits un petit peu particuliers, et s'occuper des personnes, mais des vivants. Et au travers de mon beau-père, j'ai pu effectivement découvrir quelque chose d'extrêmement humain, s'occuper des personnes décédées, de la famille, de l'entourage. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert vraiment ce métier qui m'a fasciné, et moi j'ai commencé par dans ce métier par faire les embaumements. Les soins de conservation sur les personnes décédées, c'est quelque chose qui me passionnait.
Alors ça porte un nom particulier, hein.
Alors c'est la thanatopraxie.
Voilà, c'est ça.
Ah, c'est la thanatopraxie, donc c'est la reconstitution du corps, redonner vraiment des traits à la personne décédée, maquillage, restauration, lorsque malheureusement il y a eu un traumatisme, accident ou autre. Et ça, j'ai vraiment été fasciné par ce métier, et au fur et à mesure, j'ai continuer à évoluer dans ce métier et j'ai souhaité ouvrir des agences de pompes funèbres et m'occuper complètement des personnes décédées, des soins, de l'organisation des obsèques.
Alors on dit obsèques ou funérailles, c'est quoi la différence ?
Il n'y a pas de différence parce que c'est la même chose, c'est la même finalité, organiser les obsèques ou les funérailles en quelque... C'est une terminologie...
Oui, c'est la même chose.
Ouais, c'est la même chose. Quoi.
D'accord. Il y a une école pour ça ? On apprend ? Comment on apprend ?
On apprend, effectivement. On apprend... Il y a une école de thanatopraxie.
Ah oui ?
Oui. À l'époque, c'était l'Institut français de thanatopraxie. Et donc, ça dure... la formation est à peu près d'un an. Qui est donc soumis à un diplôme.
Ça fait un peu penser au médecin légiste, ça n'a rien à voir.
C'est un peu oh, ça serait prétentieux de dire qu'on est médecin légiste, on en est extrêmement loin, mais effectivement, c'est l'étude de l'histologie du corps humain. Il y a vraiment des similitudes, puisqu'on doit bien connaître le corps humain pour pouvoir restituer aux familles l'aspect, je veux dire, le plus naturel possible.
Et ça, vous vous basez sur des photos, alors ?
Sur des photos, oui. C'est effectivement, se baser sur une photo, c'est important si on veut vraiment respecter la personne telle qu'elle était de son vivant, quoi.
Et ça, c'est quand même... Ça m'intrigue. Enfin, je veux dire... ça veut dire que vous vivez avec les morts. Excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais c'est particulier.
C'est particulier, oui. C'est vrai. Je dois l'avouer. C'est un univers. Mais faut avoir un bon équilibre
pour faire ce métier. Je vous ai connu, on va dire, hors contexte, oui. Plutôt assez gay comme
oui,
personne.
Tout à fait.
C'est
important, justement. Voilà, c'est un paradoxe. Pour faire ce métier, il faut aimer la vie. C'est très important.
Ah, oui,
aimer la vie, faire du sport, rencontrer les gens, et ça c'est important. Oui, c'est important parce qu'autrement, si on se referme sur soi, c'est compliqué parce que c'est quand même au quotidien être au contact de personnes qui viennent de perdre
qui sont tristes. C'est
absolument.
Le malheur, vous
tout
côtoyez
à fait.
Le malheur en permanence.
Mais c'est un honneur de les accompagner et de les prendre en main et de oui, c'est pour moi c'est vraiment quelque chose qui m'a passionné dès le début de discuter, de parler avec les gens et de leur apporter le maximum de réconfort dans un moment qui est tellement difficile. Les mots, c'est très très, faut faire très attention, est extrêmement délicat.
Des fois, vaut mieux pas ne rien dire que rajouter à leur chagrin, en fait. Faut être empathique.
Mais alors, vous vous imprégnez des gens, de la famille, comment... Bon, vous avez organisé les cérémonies de personnages très connus, comme on l'a dit, Jean-Paul Belmondo, oui. Michou, il y en a d'autres. Vous vous imprégnez de la personne, vous imprégnez de la famille, comment vous savez quels sont les bons mots?
Il faut avoir une certaine psychologie dans ce métier, effectivement. Hein. Donc là, quand on parle de personnalité, on a déjà une image déjà personnelle sur Jean-Paul Belmondo.
J'ai envie de vous demander comment ça se fait que ces personnes-là vous ont appelé?
C'est par connaissance, en fait, par des gens communs qui ont fait que ils nous ont référencés auprès de la famille, leur dire qu'effectivement, on était une société en laquelle ils pouvaient avoir confiance, parce que c'était très important. Chaque personnalité, sur les dernières années dont on s'est occupé, avait à cœur, je pense, d'être face à une entreprise, justement, à dimension humaine. Mm-hmm. Donc, qui mieux qu'une entreprise familiale, en fait,
ouais.
Pour s'occuper d'eux, parce que effectivement c'est un travail de plusieurs jours où on est en totale immersion avec eux et donc effectivement on doit s'imprégner donc de la famille, de tout ce qu'ils ont envie de faire pour leurs défunts. Et donc, il faut être totalement disponible pour ces familles-là, comme on l'est régulièrement pour nos familles au quotidien, mais c'est encore un autre schéma. Il va y avoir une cérémonie très importante en règle générale. Hein, quand, pour Jean-Paul Belmondo, il y a eu la cérémonie aux Invalides. Donc tout ça ne se fait pas comme ça, en fait. Hein. Il y a des rendez-vous, il y a une préparation.
C'est vous
qui
organisez tout ?
Alors nous, on est là pour centraliser l'organisation, mais on est présent effectivement à tous les rendez-vous, hein, que ce soit aux Invalides. Là, il y avait les rendez-vous donc avec l'Élysée. Avec
le protocole de l'Élysée.
Protocole de l'Élysée, voilà. Donc tous ces rendez-vous, effectivement, on est présent parce que c'est nous qui devons tenir les choses, entourer la famille. Donc il faut avoir la connaissance du début jusqu'à la fin de ce qui va se passer, en fait. Donc, mais c'est très très intéressant, c'est enrichissant.
En fait, vous organisez un événement lorsque c'est de l'événementiel.
C'est de l'événementiel. C'est de l'événementiel.
Vous n'avez pas le droit à l'erreur, c'est qu'une fois.
Ah, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais dans notre quotidien, c'est le cas. On n'a jamais le droit à l'erreur, en fait. Pour toutes nos familles, et ça, c'est quelque chose qui est un moteur chez nous. C'est tu ne pourras pas recommencer, en fait. C'est le détail, tout est dans le détail. De la tenue d'un porteur, de la tenue de nos véhicules, de voilà que le cercueil soit irréprochable pour les familles. On est dans une construction du deuil pour les familles. On est là au démarrage de leur deuil. Et ça, c'est très important d'avoir ça à l'esprit, en fait, quand on reçoit une famille. C'est un métier qui me plaît pour
alors,
tout ça.
Vous êtes dit petite, je vais travailler avec mon papa. Je trouve que ce qu'il fait, c'est incroyable.
Je me suis pas dit toute petite que j'allais faire ce métier, mais j'étais effectivement en boutique de pompes funèbres dès toute petite, dès toute jeune.
Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un commerce.
C'est un commerce, voilà. Pignon sur rue, donc on est un commerce. Donc
En même temps, quand on rentre ici, on n'a pas une galerie de cercueils.
Tout est fait dans la discrétion, même à l'extérieur. On fait attention. C'est sur un écran aujourd'hui. Avant, on avait les cercueils physiquement. Maintenant, on a un écran qui permet en fait de voir plus de modèles pour les familles et surtout d'avoir une distance parce que il y a certaines familles qui veulent pas forcément être confrontées directement au cercueil. Ça peut les déranger d'en avoir plusieurs comme ça physiquement, donc l'écran est une bonne solution.
Donc c'est un commerce dans lequel vous étiez petite.
Voilà, moi petite, donc mon père a fondé l'entreprise en 1989. Bon, déjà auparavant, j'étais imprégnée, donc j'avais 10 ans, j'étais imprégnée du métier déjà, puisque papa étant thanatopracteur, j'allais le voir déjà dans l'entreprise dans laquelle il travaillait pour lui rendre visite, pour le voir, parce que c'est un métier, il faut savoir que c'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc quand on veut un peu profiter de nos familles, souvent nos familles sont présentes dans les commerces. Mes enfants aujourd'hui viennent à la boutique, ils viennent nous voir parce que je travaille le samedi, parce qu'on a des déplacements le dimanche. Et voilà, c'est un quotidien en fait. Toute la famille est imprégnée par ce métier. Alors après, effectivement, de manière mesurée, on n'est pas confronté petit au chagrin des gens. Mais moi, je sais que quand j'étais gamine, je me souviens en fait de venir voir papa et de le voir recevoir des familles. Et puis effectivement, quand on parle de son humour, eh ben il avait ce petit côté un petit pointe de
dérision comme ça.
Pas de dérision, mais il était assez solaire avec les familles en fait. Donc on pouvait voir des familles rentrer dans l'agence et être complètement dévastées et repartir avec un petit sourire parce qu'il les avait accompagnées d'une manière chaleureuse, détendue. Il leur avait apporté toutes les réponses auxquelles ils avaient besoin et même plus. Donc moi ça me fascinait en fait. Mais je me disais pas que j'allais faire le même métier, mais j'étais déjà fascinée. Et puis, quelques années plus tard, moi, j'ai toujours été très proche de mon père. Donc, je suis venue travailler l'été. Et puis, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien essayer. Et puis, ça m'a plu.
Et là aussi, vous avez fait une formation, c'est ça ?
J'ai fait une formation. Donc, moi, j'ai eu la chance déjà d'être formée en entreprise, puisque comme c'est l'entreprise familiale, donc moi, j'avais déjà ma formation personnelle par mon père, par ses collaborateurs à l'époque, qui m'ont appris le métier, parce que c'est un métier qui est très important aussi d'apprendre sur le terrain. Parce que c'est la réalité qui fait que déjà on sait si on va pouvoir le faire, le pratiquer. Mmh. Et puis il y a tellement de choses à apprendre. Il n'y a pas que les règles d'empathie et de qu'il faut avoir en soi. Il faut aussi apprendre tous les textes de loi. Il faut connaître la loi. Pour pouvoir bien expliquer aux familles ce auquel ils ont droit. Être assez clair à ce niveau-là. Donc c'est vrai que moi j'ai eu cette chance de déjà avant de faire la formation avoir une connaissance du métier. Et puis après.
Et pourquoi la loi ?
Parce que on est régi par des lois, par des
code
textes,
de
code de commune, ouais. Et on a des obligations de respecter des délais pour des obsèques, de respecter des délais pour des transferts sans mise en bière. Il y a pas mal de choses.
Réglementation.
Exactement. Ouais. On est beaucoup dans l'administration en fait.
Ouais,
hein, on a affaire à la mairie, aux préfectures, aux consulats.
Alors justement, il y a eu beaucoup de changements autour de ces lois. Je sais pas, moi j'ai l'image d'Épinal où on embaumait les gens chez eux.
Chez eux, oui.
C'est plus trop le cas aujourd'hui.
C'est plus trop le cas aujourd'hui, non. On peut toujours le faire, mais on nous impose donc de protéger tout l'environnement avec l'hygiène, donc récupérer les fluides, protéger donc la chambre où
avoir
on peut se retrouver,
un lit médicalisé. Ah oui.
Voilà.
Donc c'est pas souvent en adéquation avec le domicile maintenant.
Bah non.
Ouais. Donc
aujourd'hui
en fait le plus souvent les défunts, si on veut garder son défunt à domicile, le plus souvent et qu'il n'y a pas évidemment toute cette infrastructure à disposition pour le thanatopracteur, on transfère le défunt en chambre funéraire et puis on le ramène après au domicile.
Ah, ouais.
Donc ça a rajouté des coûts aussi aux familles. C'est un confort pour le thanatopracteur qui effectivement avait certainement besoin parce que beaucoup se sont cassés le dos à faire des soins sur des lits. Qui est de la génération d'avant, tu connais bien effectivement ces difficultés-là.
Préparer un corps dans un lit, c'est pas comme le préparer sur une civière où on peut la mettre à la hauteur que l'on souhaite. Effectivement, c'était une autre pratique. Bon, c'est une évolution. Elle a ses avantages et ses inconvénients.
L'inconvénient est plus.
Faut savoir évoluer. Puis c'est...
Mais il y a de moins en moins de gens qui font embaumer leurs défunts chez eux, non?
De moins en moins, oui.
Et puis les gens meurent plus à l'hôpital?
Voilà, de plus en plus à l'hôpital, en EHPAD. Et donc, les EHPAD ne sont pas équipés pour garder les défunts. Donc, demandent de faire les transferts vers des chambres funéraires. Donc, voilà, la technique, le laboratoire est plus approprié, c'est vrai.
Il y a deux chambres funéraires à Paris.
Pour tout le monde.
Pour tout le monde, voilà.
Ah oui.
Voilà. Parce que donc, nombreux défunts décèdent à l'hôpital qui sont équipés de chambres funéraires au sein des hôpitaux, de la PHP, par exemple. Quand les personnes décèdent soit en EHPAD ou à domicile, donc elles sont transférées en chambre funéraire. Donc, si les gens veulent rester sur Paris, il va y avoir deux chambres funéraires. Une dans le 11e et une dans le 17e.
Mise à la disposition de toutes les entreprises funéraires de Paris, de banlieue.
De province aussi, quand ils sont.
Vous êtes aussi en province?
Non.
Non.
On n'est qu'à Paris. Mais bon, on peut intervenir, quelle que soit, toute entreprise est habilitée à intervenir
sur tous les territoires français et à l'étranger.
Puisque ça nous arrive de rapatrier aussi des personnes décédées à l'étranger, donc
Vous vous occupez de ça.
On peut, absolument, oui, tout à fait. Alors là, c'est une démarche consulat.
Que vous gérez également.
Oui. Vous voyez,
donc c'est multifacette.
L'avantage, je dirais, à Paris, c'est vraiment d'être au contact de toutes les coutumes religieuses, philosophiques.
Alors j'allais vous demander
C'est ça qui est assez enrichissant.
Comment ça marche? C'est uniquement ceux qui se font enterrer dont vous occupez,
ou soit inhumation, crémation, des rapatriements à l'étranger, en fait. Donc on gère toutes les
quelles que soient les religions, quelles que soient les religions.
Alors aujourd'hui, on peut pas se le cacher que on s'occupe encore de certaines familles de communautés de confessions religieuses différentes que du catholicisme. Mais aujourd'hui, beaucoup de sociétés de pompes funèbres ont été créées en fait.
Se sont spécialisées,
voilà, sur les convois de confessions musulmanes.
On pourrait dire une forme de communautarisme.
Voilà, notre métier.
Il n'y avait pas avant.
Non.
C'est il y a une quinzaine d'années que ça a vraiment.
Moi, ça fait 40 ans que je suis dans le métier. Bon, effectivement. On a vu l'évolution de ce métier basculer un petit peu dans le communautarisme.
Voilà.
C'est entreprise musulmane, juif, ça va être des
confessions. D'accord, et pourquoi alors, à votre avis?
Je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que, bon, c'est une question de proximité. Ils se sentent plus à l'aise de parler avec quelqu'un qui a la même philosophie, on va dire.
Je pense que ça ressemble à la France, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, dans plein de domaines, on voit quand même que les gens se resserrent sur leur communauté. Donc, on n'a pas été épargnés par ça. Nous, on appréciait de s'occuper de toutes les communautés parce que c'était enrichissant en tant que professionnel, d'ailleurs, de pouvoir et s'occuper d'un convoi de confession musulmane et israélite et
civile,
et asiatique. Il y a beaucoup de différences. Oui, il y a de la différence par rapport à
l'approche,
à l'exécution,
de la oui,
l'exécution plus rapide aussi par rapport à
oui.
parce qu'il faut aller plus vite pour les musulmans ou pour les israélites, ils ont un rite à respecter en termes de délai, donc il fallait aussi savoir être réactif. Donc c'était c'était très intéressant. Ça permettait de partager. Les choses sont comme ça, et on s'y est fait. Mais on a toujours quelques familles, des familles dont on s'est occupé il y a quelques années et qui nous continuent à nous faire confiance. Et peu importe, la culture, en fait, le fait qu'on soit une ancienne société, plus de 35 ans sur Paris, fait que les gens reviennent nous voir, donc quand ils ont besoin. Et donc on a encore des convois de communautés différentes, c'est enrichissant.
Alors, vous existez depuis 35 ans, il y a une grosse concurrence, rien qu'en passant dans la rue.
Oui.
Déjà, j'ai croisé 4 boutiques comme la vôtre.
Voilà, totalement.
On connaît ceux qui font de la pub à la télé.
Bien sûr.
Tout à fait.
Il y a des réglementations par rapport à ça. Vous pouvez faire de la pub. Comment ça marche?
Alors, c'est très réglementé. On n'a pas le droit de faire de publicité à proprement dit sur les obsèques en frontal. C'est-à-dire d'inviter réellement à venir chez nous pour mais dans le cadre de la prévoyance.
Voilà.
Ça, donc, c'est
quand on voit les pompes funèbres générales,
c'est la prévoyance.
Ça veut dire préparer ses obsèques.
Préparer,
exactement. Anticiper.
Voilà. Parce que ça ferait un peu racoleur.
Ouais.
Voilà. C'est un métier qui
peut se concevoir aussi. D'avoir un discours, dire voilà.
C'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, non?
Totalement.
Vous l'avez dit, effectivement.
Totalement,
C'est vrai. Mais bon, pourquoi on n'aurait pas le droit non plus de faire de la communication?
On est un commerce.
Tout à fait.
C'est un métier qui s'est ouvert sur la communication depuis quelques années, qui est très intéressant.
Ça casse un peu les tabous aussi.
Ça démystifie un petit peu le métier parce qu'à un moment donné, c'était un métier qui était très fermé, très secret. Il y a toujours une partie un petit peu comme ça, mais il y a quand même, grâce au réseau, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la communication, les publicités qui sont faites par effectivement nos confrères. Ça permet aussi de mettre en lumière ce métier. Nous, au travers des cérémonies justement qu'on a fait de Jean-Paul Belmondo ou de Bernard Tapie, ce sont des cérémonies qui ont été filmées. Donc, ça permet de voir aussi ce qu'est une cérémonie.
Mais il n'y a pas marqué en gros...
Notre publicité,
non.
Ça c'est travail, c'est d'être des gens de l'ombre, donc on doit être en discrétion, mais ça permet aussi de communiquer. Nous en interne, ça nous permet aussi de communiquer sur notre travail, sur la capacité d'une PME à faire du travail très important qui pourrait sembler être fait uniquement pour des grosses structures et qui finalement pas du tout, en fait. Une PME, une entreprise familiale, a la capacité d'organiser des gros événements. Et il n'y a pas besoin d'avoir une centaine d'employés
pour
pouvoir le faire.
Justement, ici ?
Eh bien, nous, on est une dizaine d'employés.
Et alors, vous avez des freelances quand c'est une grande...
Exactement, on travaille avec une entreprise, parce que nous, on est très, très attachés au partenariat. Donc, on travaille avec une entreprise, des gens qui sont des amis depuis plus de 30 ans. On travaillait déjà avec leur papa, avec Roméo et Mario. Et donc, ce sont des gens qui ont le même état d'esprit que nous. Le sérieux, la qualité de service. Eux, ils nous offrent la possibilité d'avoir du personnel pour le portage, pour compléter nos véhicules quand on a besoin. Donc voilà, donc c'est, on
parce
s'appuie
Paris,
avec eux.
Paris a cette particularité, donc c'est quand même assez compliqué d'organiser, de circuler. On va mettre trois fois, quatre fois plus de temps qu'en province, qu'une entreprise de province. À Paris, c'est très compliqué d'aller un point A à un point B. Donc le personnel ne pourrait pas être, je veux dire, on va parler rentabilité, dans ce sens. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir des entreprises satellites comme ça qui ne font que ça. Donc on s'attache à leurs services lorsqu'on a besoin aujourd'hui, demain, et puisque c'est très aléatoire. On peut avoir deux ou trois obsèques à organiser, demain on n'en a pas, et après-demain non plus. C'est pas du tout, c'est tellement soudain. Et il faut organiser dans un temps assez rapide. Une personne pousse la porte et ils veulent les obsèques demain ou après-demain. Ça demande effectivement
une réactivité
à avoir du personnel, et cette forme-là est une excellente forme de d'apporter un service
irréprochable.
Voilà, tout à fait.
D'être à l'heure, la qualité de notre métier, c'est d'être à l'heure. On ne peut pas être en retard, par respect pour les hôpitaux, qui n'ont pas qu'un convoi, mais plusieurs convois qui partent le même jour. Le respect vis-à-vis des églises, quand il y a une cérémonie, arriver à l'heure. Tout ça, c'est très important. Et donc, c'est pour ça que c'est important de travailler avec des gens qui ont le même sérieux que nous. Ça nous permet de pouvoir faire des gros convois avec du personnel adapté. Ça nous permet de faire de très belles cérémonies pour les familles.
Alors, on pense évidemment à toutes ces stars. Hein. Est-ce qu'il y a des desiderata particuliers, surprenants ? Est-ce que parfois vous dites non ? Comment ça se passe ?
Alors, en règle générale, on essaie de ne jamais dire non. C'est le principe.
Ça, c'est vrai.
Ça, c'est le principe de la maison. On essaie de faire en sorte que chacun ait les obsèques qu'il a envie. Et évidemment, on reste dans la légalité parce que on a des règles à tenir. Après, nous, on ferme les yeux si les gens veulent de leur côté faire des choses qui ne sont pas légales. Nous, de notre part, on est obligé de rester dans la légalité.
Ouais.
Ça, c'est obligatoire. Sinon, on est quand même sous habilitation préfectorale. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des instances sont là pour justement nous rappeler à l'ordre. Mais oui, il y a des gens qui ont des demandes particulières. Et,
vous pouvez nous en confier sans
être indiscret. J'ai eu une demande. Un jour, étant donné que je suis thanatopracteur, donc on s'était adressé à moi, une personne qui m'expliquait que donc il avait confiance dans le futur, dans la science, et qu'il souhaitait, si il décédait, donc par exemple, il avait un emplacement au cimetière du Montparnasse, et il voulait que je mette de la neige carbonique régulièrement pour conserver son corps parce que la neige carbonique, bon, c'est à moins 100 degrés. Donc, pour lui, il pouvait être conservé et dire un jour, comme ça, si la science fait des progrès, pouvoir me ressusciter. Hibernatus. Donc,
respirer.
Quand vous avez ce type de demande, prenez une grande respiration. Une grande respiration.
Et bon, surtout que la personne, elle vient vous le demander
de son vivant. Ah ben, complètement. De son vivant. Voilà.
Ça, c'est original. Donc,
il faut garder son sérieux. Chacun a une demande respectable, mais après, on ne peut pas forcément accéder à...
Non.
Mais c'était dans le cadre d'un contrat, quoi.
Oui, c'est ça, exactement. Il voulait qu'on le coupe sur un contrat obsèque. Contrat obsèque. De toute façon, le cimetière, quel qu'il soit, en France, refuse ce genre de...
On peut pas ouvrir, on peut pas laisser une sépulture ouverte, déjà.
Et alors, bon, vous avez dit non, mais peut-être qu'il y en a qui disent oui.
Oui, mais alors là,
quel est votre regard par rapport justement, on va dire, à la modernité ? Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais aujourd'hui, il y a des start-up qui se lancent dans les pompes funèbres.
Dans les pompes funèbres,
tout évolue, donc
tout évolue.
Il y a
des choses qui sont formidables, qui sont créées, et c'est vrai que ça permet effectivement de mettre une nouvelle ère dans notre métier. Ça permet d'insuffler des nouveautés pour les familles, parce que avant tout, et c'est ça qui est important, c'est de penser aux familles. Quand on crée une start-up dans quelconque domaine du funéraire, c'est important que ce soit axé sur la famille.
Mais la famille aujourd'hui, elle est protéiforme. Elle est plus
alors c'est la famille au sens large.
C'est, ça,
c'est vraiment les proches en fait qui viennent organiser. Donc nous, on est très très concentrés sur leur confort à eux et leurs souhaits, effectivement, quand ils veulent personnaliser. Et c'est vrai que de nombreuses startups aujourd'hui existent pour nous aider, nous donner des solutions pour créer des choses un petit peu différentes pour les familles. Vous avez la startup, c'est Histoire de Vie, qui permet de pouvoir, avec un QR code posé sur une sépulture, de pouvoir voir défiler la vie du défunt, ce qui est, moi je trouve ça extraordinaire, parce que ça permet de laisser une trace pour les futures générations qui viendront sur la sépulture, de revoir des photos.
Avec le temps, le QR code est toujours actif.
C'est quelque chose d'assez récent, mais pour le moment ça fonctionne. Mais après,
le cimetière, c'est un endroit où
de silence,
peut-être on va de moins en moins.
Mais toutes ces petites solutions-là, peut-être permettent de peut-être un petit peu refaire revivre les cimetières, en fait, d'attirer peut-être un peu plus les gens à revenir sur les sépultures. Mmh. Après, c'est vrai que la crémation, c'est énormément développé ces dernières années, parce que il y avait aussi ce côté-là de ne pas avoir de sépulture à entretenir, ou de laisser une sépulture à entretenir à ses enfants, parce que les gens voyagent beaucoup.
Ça coûte de l'argent d'être au cimetière.
Il y a un entretien de sépulture, on a des règles à tenir quand même dans un cimetière. Donc si vous n'avez pas une concession perpétuelle, mais de 10 ans, de 30 ans, de 50 ans, vous devez la faire renouveler. Donc effectivement, les générations qui suivent doivent payer ce renouvellement s'ils veulent que leurs défunts soient toujours dans ce cimetière. Et puis il y a l'entretien de la sépulture, il faut quand même que les cimetières restent propres. Donc effectivement, il y a des nettoyages à faire, le fleurissement, toutes ces choses-là, si on veut continuer à garder sa sépulture. Donc, les startups, justement, qui ont été créées, permettent à des familles qui sont éloignées d'avoir un système d'entretien de la sépulture.
On est dans le service, là.
On est dans le service. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui se sont créées pour ça, pour offrir du service aux proches des défunts, quoi, en fait, aux familles. Donc, c'est des choses qui ont toujours été proposées quand même par les marbriers, par exemple. Ça, c'était le travail beaucoup des marbreries, donc d'entretenir les concessions. Mais ça s'est étendu grâce aux réseaux sociaux. Il y a un peu plus de structures qui existent et qui offrent ce service-là et qui, en partenariat avec des pompes funèbres, permettent d'offrir ça aux familles.
Et justement, ces réseaux, est-ce que ça désacralise la mort ? Comment ça évolue, tout ça ?
Il y a une mutation, effectivement, sur les 20 dernières années dans la profession. Effectivement, le métier s'est ouvert de plus en plus au public, c'est moins caché.
Pourquoi on appelait ça des croque-morts alors ?
Ah, les croque-morts, oui. Pourquoi on appelait le croque-mort ? Parce que c'est l'étymologie du mot croque-mort vient du fait que quand il y a eu la peste à Paris, les cadavres étaient jetés dans la rue parce qu'on avait peur.
On n'était pas sûr qu'ils étaient morts.
Et on n'était pas sûr et on avait peur qu'ils étaient contagieux.
Ah oui.
Donc, ils passaient avec des charrettes et des chevaux. Il y avait des personnes, du personnel qui était dévoué à cette tâche. Et pour ne pas toucher le mort, ils avaient un croc.
Ah.
C'est de là que vient le mot croc.
Moi, je croyais qu'il croquait le doigt.
Ça, c'est la légende.
C'est
ce qu'on peut raconter lors d'une soirée.
Voilà.
On dit, je lui croque le...
Voilà. Ça fait,
alors que non, le mot croque-mort vient de là.
Ah,
parce qu'avec un crochet, on attrapait le mort pour le mettre et ne pas le toucher.
Ah, ok. Ouais. Donc, effectivement,
parce que l'histoire de croquer l'orteil ou truc comme ça...
Ça, n'existe pas.
Ça,
c'est pour rajouter...
Voilà.
Quelque chose de mystique,
la profession. C'est quand même un métier qui est... Enfin, franchement, c'est obscur comme métier.
Obscur, c'est vrai.
Vous rentrez dans une soirée, vous dites « Bonjour, je suis quoi ?»
Ah ben oui, croque-mort.
Vous dites quoi ?
Moi, je dis « Je suis entérologue ».
Qu'est-ce que ça veut dire ?»
Voilà, ah bon, c'est quoi ? Ben, je suis croque-mort. Ah ouais, ah ouais. Ah,
non, mais vous dites ça, je suis croque-mort.
Je suis croque-mort, ah,
oui,
je suis...
Ah ouais ?
Moi, j'aime bien aussi le côté dérision.
C'est un métier qui intrigue, quand
tu vas
dîner, que tu...
Ah ben,
si tu dis rien, si tu donnes ta profession, souvent les gens,
ça glace, non ?
Bah soit ils sont là, d'un air effrayé, soit ils sont fascinés de se dire ah bon, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu fais, en quoi ça consiste ?
Et c'est quoi ceci,
et vous,
tel qu'on fait là, tel qu'on discute.
Ah ben moi, on explique que c'est de l'accompagnement.
Non mais vous dites quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Que vous faites quoi dans la vie ?
Moi, je suis assistante funéraire. Moi, je dis assistante funéraire, qui est le terme aujourd'hui utilisé pour notre profession, pour tout du moins pour ceux qui sont en agence.
Un assistant funéraire,
voilà.
c'est la personne qui prend en charge vraiment de A à Z et qui organise de A à Z
les
funérailles.
Alors donc vous disiez ça a beaucoup évolué dans les 20 dernières années. Qu'est-ce qui a vraiment changé de votre point de vue ?
Alors qu'est-ce qui a changé de mon point de vue ? Ben, déjà, il y a de plus en plus de pompes funèbres.
Ouais.
Il y a des franchises. Il y a beaucoup des affairistes qui sont arrivés. Il y a eu des fonds de pension. Il y a eu plein de choses comme ça qui se sont mis sur le marché.
C'est un métier juteux ?
Oui, oui, on peut le considérer comme ça, puisque bon, banques, assurances, mutuelles se sont jetées sur le marché. Donc,
je prends
un terme financier,
ouais.
Parce que eux, ils y ont vu un intérêt financier.
Les obsèques,
prise en charge,
en moyenne,
à 4 000 euros à peu près.
Voilà.
Après, il y a plein de choses qui peuvent différer par rapport au fait d'une crémation, d'une inhumation. Vous avez une concession, pas de concession.
Ouais.
Vous faites un caveau, pas de caveau. Il y a des choses.
Oui,
on va dire en moyenne. Ça peut être moins pour certains services. Ça peut être beaucoup plus quand il y a effectivement d'autres choses à ajouter. Mais en moyenne, voilà, c'est à peu près. D'ailleurs, les banques, elles, autorisent de prélever sur le compte d'un défunt. Pour éviter que les familles aient à avancer les frais. Ils sont autour des 5 000 euros. Donc, ça montre un petit peu la fourchette des tarifs dans le funéraire.
Et quand vous vendez des prévoyances, ça veut dire que la personne, elle va capitaliser pour son décès, c'est
exactement.
Ça ?
Exactement. C'est-à-dire qu'on anticipe, on fait comme si la personne décédée...
Et si elle met 20 ans à mourir,
c'est un placement. En fait, cet argent-là n'est pas donné au pompes funèbres.
Ah ouais,
voilà. C'est pas la société pompes funèbres qui encaisse cet argent. Nous, on la donne à notre assureur avec qui on travaille. Et donc, en fait, c'est eux qui sont le gage de la...
C'est un plan d'épargne décès.
Exactement. C'est le même principe. Alors, soit en prestation, c'est-à-dire que ça veut dire qu'une pompe funèbre a établi déjà tout ce qui doit être fait pour les obsèques, soit en capitalisation, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui est prévu pour la famille pour payer des obsèques et qu'ils définiront à ce moment-là selon le choix du défunt.
Et je reviens sur l'évolution.
L'évolution, justement,
donc,
ça en fait partie. Effectivement,
ouais.
Ça en fait partie de l'évolution, les contrats obsèques, la prévoyance, parce que qu'on explique, effectivement, la famille est de plus en plus éclatée, les divorces, les remariages, les enfants qui partent dans le monde entier aujourd'hui. Donc, quand vous vous retrouvez à 60, 70 ans, dites mince, qui va s'occuper de moi ? Ils sont tous partis. Donc, ça a été une évolution logique. Et il y a aussi les chambres funéraires. Il n'y avait pas par le passé, il y avait avant, comme on le disait tout à l'heure, on gardait son défunt
chez soi,
il était soigné à la maison. Et il y a aussi les maisons de retraite qui se sont développées, donc tout ça fait que a fallu ouvrir des chambres funéraires. Une maison de retraite n'a pas vocation à avoir un défilé de corbillards devant chez elle. Il faut préserver la santé mentale un peu, on va dire, des résidents qui sont là pour ne pas avoir des corbillards sous leur fenêtre, quoi. Donc c'est pour ça que il y a cette évolution là. Ouais.
Et il y a le paysage professionnel sur Paris, parce que nous on va parler de Paris puisque c'est notre ville. Il y a de moins en moins de petites entreprises, des gens de notre catégorie. Il y en a plus beaucoup. On est vraiment sur une...
On les compte
sur les doigts de la main. Parce que effectivement, il y a eu beaucoup de groupes qui ont racheté ces petites sociétés et qui ont fait grossir leur effectif et leur visibilité sur Paris. On fait un petit peu les petits Gaulois au milieu de Paris. Parce qu'on tente...
Les Gaulois qui organisent des cérémonies. comment ça marche? Je ne sais pas comment on dit, mais vous n'avez pas fait Johnny, par exemple.
Non,
c'est aussi une entreprise à visage dimension humaine, tout du moins qui est une structure
qui
s'en est occupé.
Les grands, les gros, comment ils voient ça? Il y a une concurrence à ce moment-là.
Certainement, puisque
on vient démarcher la famille. Comment ça marche?
C'était leur comme dans toute profession, il y a chacun des réseaux et donc ils avaient certainement leur réseau. Ils ne faisaient que s'occuper des autres personnalités. Nous, on a un petit peu.
C'est les monopoles. À l'époque...
Oui, mais par rapport au réseau des personnalités...
Il faut se dire qu'à une certaine époque, il y avait moins d'entreprises parce qu'on a fonctionné sous l'ère des monopoles. À Paris, par exemple, la ville de Paris, la mairie de Paris, qui avait le monopole des obsèques. On pouvait être en agence, mais on avait l'obligation de s'adresser au monopole pour un cercueil, pour des porteurs, pour des corbillards.
Ah ouais.
Ils avaient, et en banlieue, c'était la même chose. Donc, c'était le groupe OGF qui avait le monopole, et c'est comme ça qu'ils se sont développés. Quand on a un monopole, c'est facile.
Bien
sûr. On est sûr de faire les obsèques parce que c'est un
et
monopole.
Pourquoi il y avait un monopole?
Bah, c'était que, comme ça à l'époque. C'était la loi, c'était 1904, je crois, que quand il y a eu la séparation de l'Église et de l'État. Ça a été dédié aux communes, et les communes avaient l'obligation de s'occuper des défunts, et donc ont délégué, c'est une délégation de service public,
ouais,
à quelque,
okay,
quelque sorte. Je schématise un petit peu.
Et donc,
peu.
La première entreprise privée?
Privée, c'était OGF.
OGF,
d'accord. Pompe funèbre générale, je leur fais de la pub. Mais bon, c'est comme ça. Et au travers de ce monopole, évidemment, avaient des relations privilégiées avec les élus,
oui,
avec
et donc,
avec
ils avaient leur réseau,
ils étaient
pour
le,
pouvoir
le,
travailler, voilà, avec les hautes personnalités. Donc, après, nous, c'est, ouais, notre travail. Enfin, moi, je sais que quand on a eu la chance de pouvoir approcher des familles telles que, voilà, la famille Belmondo, moi, j'ai trouvé ça presque un juste retour pour
oui,
mon,
oui,
père, qui a travaillé depuis plus de 40 ans dans ce métier, qui a été, enfin, qui a toujours fait un travail remarquable. Ça fait plaisir de savoir que des belles familles comme ça, bah, se retournent vers des entreprises familiales et que, bah, qui se rendent compte, effectivement, nous aussi, on fait du super travail.
Vous savez qu'il est malade, vous vous rappelez à leurs bons souvenirs, ou c'est eux qui...
C'est l'entourage.
C'est l'entourage.
C'est l'entourage,
l'entourage,
voilà.
Parce que bon,
bon,
à Paris, on compte tout. Moi, je
ne peut pas faire ce genre de...
Oui, voilà, vous n'allez pas démarcher.
Non,
puis quelle horreur.
Bah, oui.
Vrai. On n'est pas dans un état d'esprit comme ça. Non. C'est les familles autour, effectivement.
C'est le relationnel qu'on crée spontanément, en fait.
Alors, comment on crée ce relationnel?
Ce relationnel, c'est au travers de d'amis en commun,
voilà,
qui vous présentent, et
donc vous sortez, on fait le VRP, voilà.
Tu peux citer Claude Perraudin, qui
le père Claude,
qui est une institution,
À Paris. C'était qui recevait tous les dignitaires du monde de la politique, du showbiz, du sport, et oui, il faut s'imprégner.
Et donc, du coup, tu as été dans des réseaux, tu as rencontré des gens qui t'ont pris en sympathie, et puis le jour où ils ont eu besoin, ils se sont dit, ah bah tiens, on va faire appel à Jean-Claude Bertrand, parce que il a l'air sérieux, ce monsieur, il a l'air sympa, et puis voilà, et puis on fait du bon travail, et du coup les gens sont satisfaits de ce qu'on leur a apporté. Donc ça, c'est du bouche à oreille. C'est un métier aussi, tout de moins dans une petite structure comme ça, c'est du bouche à oreille, c'est-à-dire que si tu accompagnes bien les gens, un jour on te permet de rencontrer telle personne.
J'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer Francine Leca du mécénat chirurgie cardiaque. Ça a été vraiment pour moi quelque chose de fabuleux, de l'écouter et de pouvoir apporter malheureusement notre contribution aussi pour ces petits qu'elle faisait venir d'Afrique.
Alors ça, oui, racontez-moi. Donc ça veut dire que c'est vous qui vous occupez de rapatrier les enfants s'ils décèdent sur le sol français, si l'opération, l'intervention n'est
pas un succès. C'est le mécénat qui doit, à ses frais, financer le rapatriement, puisqu'il n'y a pas d'assurance. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je me suis retrouvé.
Comment vous l'avez rencontré?
Je l'ai rencontré par une amie qui, elle, déjà connaissait le mécénat, qui m'a présenté à Francine Leca, et donc j'ai fait mes offres. Je lui ai dit, on peut peut-être vous apporter notre contribution aussi, nous, en faisant en sorte que ça vous coûte le moins cher possible pour rapatrier ces enfants, et que cet argent reste au sein du mécénat pour faire venir d'autres enfants. Voilà notre mission, et on n'en est pas peu fiers. Et vraiment merci à Francine, qui nous a quittés récemment.
Pour la confiance, oui.
Heureusement, il n'y a pas trop de décès d'enfants.
Heureusement.
Non, mais c'est vrai. Ça, exactement.
Mais il faut
aussi être présent dans ces moments-là, parce que
Mais c'est la partie aussi très enrichissante de ce métier.
Ah bah oui.
On est vraiment sur toutes les phases.
Montrer qu'on est, c'est pas que le grand mort qu'on disait, c'est là qui attend. Non,
on a du cœur.
On a du cœur, on est ouvert, on est.
Justement, heureusement, c'est pas très souvent parce que quand on reçoit un appel du mécénat, on est tous en peine en fait.
Oui.
Nous, on a Marie-Armelle qui est à l'agence du 13e, qui souvent c'est elle qui prend en charge de s'occuper de ses enfants-là, et bien sûr, elle est en peine quand elle reçoit l'appel.
Mais justement,
si
vous devez enterrer un enfant, ça doit être vraiment difficile.
C'est une partie très, très, très difficile. Oui, ouais, tout à fait.
C'est
quand on reçoit les parents, quand on a les parents en face de soi, c'est qui sont la plupart du temps, tout le temps d'ailleurs, ils sont d'un courage quand ils viennent à l'agence pour organiser et choisir ce qu'ils veulent pour leur enfant. Et nous, on est parents. Donc,
vous arrivez à ne pas pleurer?
Ça dépend des fois. Ça arrive de verser, d'avoir les yeux humides, c'est normal. On doit se tenir parce que justement, on n'est pas là pour leur en rajouter. On est là pour les soulager. Donc, on n'est pas là pour ça, mais on peut pas dire qu'on n'a pas les yeux qui piquent. Voilà. Et c'est tout ça aussi où il faut apprendre à justement se protéger.
En tant que distance,
voilà,
en fait,
parce que on peut pas ramener ça chez nous. On n'a pas le droit pour nos propres enfants. On peut pas être dans un chagrin continuel. Mais c'est là aussi ce qui est important, c'est de partager avec ses collègues, d'être dans une ambiance agréable et de pouvoir justement passer à autre chose quand quand la famille est sortie, on s'est bien occupé d'elle. Eh ben, on va pouvoir parler d'autres choses avec ses collègues, rire sur des choses de la vie pour justement se protéger de tout ça.
Beaucoup plus léger.
Être beaucoup plus léger.
Mais ça, c'est peut-être un avantage d'être en famille. C'est que vous pouvez être entre vous.
On se connaît, on se comprend.
Votre mari travaille avec vous.
Exactement. Donc, chacun, en fait, permet à l'autre de surmonter si ça va pas trop bien, quoi, en fait.
Ouais.
Et c'est vrai que, travailler en couple dans ce métier, ça a un côté aussi enrichissant parce que ça nous permet de partager des choses. On se comprend.
Alors, votre maman, elle faisait quoi, votre femme?
Mon épouse, elle nous soutenait. Elle n'était pas physiquement présente, mais évidemment, elle n'a pas pu passer à travers. C'est pas possible.
De toute façon, on peut pas réussir sans avoir quelqu'un à côté de soi qui nous épaule, quoi, en fait.
Je l'en remercie.
Maman, pour ça, elle a été extraordinaire.
Pour s'occuper des enfants et moi, développer
elle a
parce que, comme vous dites, c'est H24, en fait.
Complètement.
C'est elle qui nous a amenés, justement, à l'agence pour venir voir papa. Le samedi,
Pour une petite entre eux, Paris est quand même, vous êtes noyé dans Paris. Donc, si vous n'avez pas ce souci d'aller devant des administrations, vous n'existez pas. Donc, il faut se faire connaître. Il n'y a pas d'autre solution.
Donc, vous êtes sur le pont, parlez de l'entreprise.
Bien sûr, tout à fait.
Se faire connaître, absolument. Ça, c'est important.
Ah oui, c'est important.
Il faut exister.
C'est important. Très, très important.
Mais aujourd'hui, les réseaux aussi aident à ça.
Oui, mais qui va suivre les pompes funèbres, Bertrand, sur Instagram?
Ça va être des gens qui nous connaissent, effectivement. Mais c'est important, quand même, d'avoir une visibilité même nationale, d'être que nos confrères de province sachent qu'on existe encore à Paris, qu'il y a encore des entreprises familiales à Paris, qui eux, très souvent, sont des entreprises familiales. Donc, qu'ils sachent que il y a quelqu'un qui leur ressemble à Paris.
Il y a une corporation de métiers.
Oui, il y a
vous réunissez parfois.
Il y a des fédérations en fait qui nous permettent de gérer toutes nos informations sur les lois, sur les changements qui peuvent se produire dans notre métier. Donc ça.
Il y a le salon du funéraire.
Il y a le salon du funéraire.
Chaque année, il y a un salon à Lyon cette année et tous les deux ans à Paris.
Mais un salon professionnel.
Professionnel qui regroupe tout.
Ça permet de se rencontrer aussi, de se voir.
On fait aujourd'hui des cercueils en forme de guitare. Ça existe?
En Afrique, ils sont très friands de ce genre de.
Ah, oui.
Ça peut être un bateau. Ça...
Ah, oui.
Oui, oui, en Afrique.
Mais ils ont une autre relation, non?
Ils ont une autre relation avec la mort. Ah oui, c'est.
Oui, ils ont une philosophie différente.
Ils vont peindre de toutes les couleurs.
C'est un peu une fête.
C'est une fête. Ouais. Oui, tout à fait. Il danse.
Mm-hmm.
Il danse avec le cercueil.
Nous, on est encore assez fermés là-dessus.
Ouais,
non,
on est encore un peu, oui.
Bah, je pense que c'est une tradition. C'est une tradition. C'est bien aussi de garder. Bah, moi, je trouve que faut faire des choses quelquefois, effectivement, un petit peu folklore quand le défunt en avait envie et que, nous, Michou, il avait envie d'avoir son cercueil bleu parce que c'était l'homme en bleu de.
Mais c'est lui qui l'a demandé.
C'est lui.
Ouais. Et c'était sur son testament.
Bien sûr. C'était un contrat obsèque qui a été fait avec Michou. Donc il a tout peaufiné. Il a choisi ce qu'il avait envie. Il voulait que ce soit une fête. Donc on lui a fait la fête parce que lui, il aimait ça et c'était un homme de la nuit et de.
C'était le prince de Montmartre.
C'était le prince de Montmartre. Et donc on a eu cet honneur de l'accompagner.
Ah oui. Ça a été avec son corbillard bleu qu'on lui a fait.
Ouais.
Spécialement,
sur proposition que je lui ai fait,
à Catherine, sa nièce,
parce que c'était pas, ça n'avait pas été couché sur le contrat obsèque. Et puis, le jour où il est décédé, ils m'ont reçu au cabaret et j'aurais dit, j'ai une idée, je vais vous la soumettre, mais vous avez 5 minutes pour me donner la réponse que je connaissais, quoi. J'ai dit, voilà, on fait le cercueil en bleu. Les porteurs vont avoir les vestes bleues parce que c'était son souhait. J'ai dit, on peut pas avoir un corbillard noir. Il faut qu'il ait un corbillard bleu. Mmh. Ah bon, c'est possible? J'ai dit, oui, si je propose, c'est possible. Ok. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait ce corbillard bleu qui est fabuleux, quoi.
Bleu Michou, ouais.
On était les premiers à sortir des...
Bah c'est le convoi de Michou qui a un petit peu aussi ouvert la voie
au cercueil de couleurs.
Ah oui.
Absolument, ouais.
Parce que bien sûr on en avait fait quelques-uns.
Précurseurs.
Ouais.
Sur certaines.
Ouais, parce que après, d'autres vous ont.
Ah, bah, d'autres ont emboîté le pas. Absolument, oui.
Oui, et puis, les groupes.
Ouais, les groupes.
Ont pris cet axe-là sur le cercueil de couleurs. Donc, aujourd'hui, toutes les sociétés de pompes funèbres proposent des cercueils de couleurs.
Des cercueils de couleurs.
On peut dire que c'est Michou qui a ouvert la voie à son cercueil de couleurs. Parce que son cercueil bleu, il est passé partout, dans tous les journaux à l'époque. Et il était tellement beau que, moi, je dis que, c'est Michou qui a ouvert cette voie.
Qui nous a...
Et on a eu la chance d'avoir un partenaire, quand on parle de partenaire, d'avoir la SAPI, qui est notre fournisseur de cercueils, qui nous a suivis, parce qu'il a fallu en faire des bains de couleurs, parce que Michou, c'est le bleu Michou, c'est pas n'importe quel bleu. Donc il a eu plusieurs bains de cercueils qui ont été faits
par... Mais c'est lui qui avait validé le bleu.
Il a validé le bleu,
absolument.
Exactement.
Non, mais c'est quand même impressionnant, les gens qui arrivent à avoir
des relations,
détachement de la mort, pour en parler aussi librement, en disant, je veux cette couleur, je veux ci, je veux ça. Non, c'est pas fréquent.
Ah bah non.
Non, c'est pas fréquent.
Je me suis retrouvé à boire quelques bouteilles de champagne chez lui à mon.
Ah ouais.
Parce que il se réveillait. C'était une personnalité, Michou. Il avait des envolées comme ça. D'un seul coup, il se réveillait, il voulait changer tout.
Ouais.
Et il fallait. Alors donc, on allait chez lui, on renvoyait les cheveux, puis finalement.
Ah
bon,
mais il était tellement. Ah c'était important.
Ah, c'était important. Telle personne, qui vient pas.
Ouais.
Ah oui, oui.
Ah, c'est lui qui a décidé la liste
des invités. Ah oui, tout était couché sur une feuille.
Et ça arrive qu'il y ait des discordes, c'est-à-dire que la personne, elle a un souhait, et puis elle décède, la famille ne veut pas
ceci.
Alors, si c'est couché sur un contrat obsèque, on n'a pas le droit d'y déroger.
D'y déroger.
Parce que ça a une valeur testamentaire.
Ah bah oui.
Donc là, nous, on doit se tenir à ce qui est...
Ils
sont obligés d'accepter ce qui a été...
Alors là, il faut...
Après, c'est juridique.
C'est pas à nous de prendre ça en compte. Voilà. Lorsqu'il y a des distances, des querelles de famille, on leur demande d'être extrêmement respectueux de la personne qui se accompagne, mais on ne peut pas...
intervenir, non.
Qui on est pour interdire à quelqu'un de venir?
Non.
On n'est pas un service d'ordre spécifique. On peut le voir, on peut essayer d'arranger les cheveux parce qu'on a quand même l'expertise, mais on ne peut pas se mettre en travers. On ne connaît pas le comment, le pourquoi.
La vie des gens, on n'a pas à
juger. En 5 minutes, je vais prendre parti pour qui que ce soit. Énormément de diplomatie. Ah ben oui.
S'il y a un conflit à un moment donné dans une discussion, on leur dit, on vous laisse quelques minutes, on revient, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire l'arbitre.
Ouais. Enfin, comment on apprend cette attitude, ces valeurs?
Bah déjà, il y a des valeurs qu'on a en soi. Moi, déjà, je dis que ce métier-là...
La relève, on est prédit. Vous avez des enfants qui vont reprendre l'entreprise?
Bah, moi, j'ai mon fils, ce n'est pas du tout sa voie. Sa voie, il a 18 ans, lui, ouais. il veut faire de l'art, ça va être le dessin, enfin, de la photographie, donc ça n'a rien à voir, même s'il nous accompagne quelquefois, il nous aide dans notre communication, parce qu'il nous fait des beaux dessins, des belles choses, donc ça peut nous aider, puisque l'art rentre beaucoup dans ce métier maintenant.
Peut-être de plus en plus.
Exactement, peut-être. Donc il y a beaucoup d'artistes qui participent à la profession aujourd'hui. Ma fille a 11 ans, donc elle est encore toute jeune, mais elle adore venir... au bureau et elle dit toujours qu'un jour son métier ce sera pompe funèbre Bertrand.
Donc, d'accord.
Donc bon. C'est encourageant. Donc peut-être, voilà. peut-être, peut, exactement. Ça peut être.
On peut investir sur l'avenir.
Ah ouais. Oui,
voilà.
C'est pas mal.
C'est pas mal au pompe funèbre.
Comment vous voyez l'avenir vous dans ce métier?
Alors nous l'avenir c'est un métier qui est faut pas se le cacher très compliqué par le fait des groupes qui ouais. existent qui sont effectivement des ça, groupes financiers peu, voilà eux ils ont de
la
l'argent
financiarisation
ils ont,
du,
voilà
du,
donc
du
ils peuvent
deuil.
Ils peuvent créer des choses ils peuvent effectivement à un moment donné peut-être nous écraser un jour peut-être alors on est très très on est toujours sur la défensive
et
alors, pas par leur la densité qu'ils peuvent opérer au niveau de leurs infrastructures.
Mais ils sont minoritaires par rapport à nous.
Oui,
puisqu'on représente
sur toute la France.
Plus de 60%
moi, je parle sur Paris.
Des indépendants.
Ouais.
Mais c'est pas rien.
Sur Paris même,
c'est pas rien. Donc, on a une force. C'est à nous de.
Sur toute la France, nationale.
Oui, nationale.
Mais au niveau de Paris, on est quand même très peu nombreux. Mmh. Et c'est vrai qu'il faut être dans la réalité. Il y a quand même des choses qui se passent et qui se font et qui voilà, sont moins en adéquation avec nous, nos structures.
Bien
mais bon,
sûr.
On est là et on va être là encore longtemps, je pense. C'est le but. Nous, on aime ce qu'on fait. Donc, on l'a en nous. C'est un métier qui... moi, j'ai grandi avec...
Je suis encore là.
Voilà.
Parce que 70 ans, je suis encore là.
Voilà, il est toujours avec moi, avec mon mari, avec Guénaël. On
ah
est,
bah oui, oui.
Voilà, on est une équipe. Avec Marie, avec nos collaborateurs. On aime vraiment ce qu'on fait. On aime nos familles et notre satisfaction, c'est ce quotidien-là. Quoi. C'est d'être auprès d'eux, d'accompagner les gens dans leur...
Et une fois que vous avez réalisé la cérémonie, vous avez encore des liens ou pas?
Oui, on a des familles avec qui on garde un lien. Alors, majoritairement, non, parce que voilà, il faut. On est là justement pour se préserver.
Ouais,
eux
ouais.
aussi, ils ont voilà leur deuil à faire, passer à autre chose. Ils vont pas être dans quelque chose. On peut leur rappeler aussi le deuil. C'est pas non plus pour eux. Hein, faut être réaliste. Hein. Mais oui, il y a certaines familles avec qui on a gardé des liens et des belles histoires d'amitié. Moi, j'ai une belle histoire d'amitié qui s'est créée dans ce métier-là et ça, c'est étonnant et en même temps, c'est un peu normal. C'est un métier hyper enrichissant. Qui est peut-être un peu trop méconnu pour la jeunesse parce qu'effectivement personne se dit quand il est petit je vais faire pompe funèbre
ben
ça me paraît très rare, il y en a peut-être mais ça me paraît très rare.
Je vais faire gardien de cimetière, non,
c'est
un métier qui est magnifique, qui est magnifique à faire. Moi, je suis complètement convaincue. Il y a une certaine vocation pour le faire, ce métier-là. Sinon, on peut pas le faire dans la durée. Je pense que sinon, on a de la souffrance.
Oui, c'est presque une évidence.
C'est une évidence.
Je suis. Comment tu peux faire ça? Tu fais quel métier? Ben, c'est la même chose.
Voilà.
Je ne me force pas.
Ouais.
J'aime ce que je fais et je sais que j'apporte quelque chose.
Moi, je suis contente.
Et ça,
tous
c'est
les
important.
Jours. Voilà. Tous les jours, quand je viens, je suis contente. Et ça, c'est important.
Ouais, c'est fabuleux.
Je suis contente de venir tous les matins ouvrir mon agence, être avec mes collègues, être recevoir des nouvelles familles, d'avoir de nouvelles histoires aussi, parce qu'il y a des gens qui me racontent des histoires. Je vis
famille,
des histoires.
Il n'y a pas une famille qu'on doit recevoir de la même manière.
Non.
On doit, en quelques minutes, cerner à qui on a affaire et comment on va
la manière dont on va
lui
voilà.
parler et la conseiller.
Oui, parce qu'il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres,
d'autres
et donc il faut faire attention à la manière dont on les accueille. Mais moi je dis toujours
d'autres
un
qu'on
sourire.
Leur apprend rien. Ils connaissent tout, donc faut les laisser. C'est du théâtre.
Bah, oui, c'est comme dans la vie.
Oui,
mais
c'est comme dans la vie.
Vous transmettez, c'est-à-dire vous débriefez après.
Oui, oui, parfois.
En disant,
ah ben oui, oui, on a eu, hein, on a eu ça. Ah oui, hein. C'est assez, oui, ça c'est marrant.
C'est l'avantage de la famille aussi.
C'est une relation commerciale, même si elle est spéciale.
Oui,
exactement.
C'est une relation humaine. Vous devez créer de la confiance.
Beaucoup, oui, beaucoup. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous que les personnes aient confiance, parce qu'autrement, s'il n'y a pas la confiance,
ça se joue en quelques minutes.
Dans ce moment-là, on fait quelque chose d'hyper important pour la vie.
Bien sûr. Ils vous demandent un devis quand ils rentrent?
Oui,
de plus en plus.
À Paris, oui.
Ils en demandent 3 autres, comme si on achète une cuisine.
Ça peut être 2-3, oui.
Ça peut être ça. Ouais.
Oui, parce que justement, ça s'est ouvert à l'univers d'Internet. Donc, de ce fait, c'est logique. Les gens peuvent avoir des devis. C'est un métier qui, fort heureusement, on n'a pas affaire à nous tous les jours. Donc, forcément, il y a une méconnaissance. Voilà. Donc, les gens ont besoin de se renseigner. Internet leur donne beaucoup de renseignements. Alors, des fois, pas toujours les bon, mais ça leur permet de pouvoir aller voir 1, 2, 3 sociétés. Moi, après, c'est librement, à moi de faire en sorte que les gens soient en confiance avec moi, et ça se joue en quelques minutes. Si vous connaissez bien votre métier, déjà, vous allez tout de suite proposer des choses, répondre à des questions qu'ils auraient eu à vous poser, mais vous les anticipez. C'est ça, notre métier, en fait. C'est d'anticiper, c'est de leur montrer qu'on va être là, on va vous soulager, on va vous aider. Il y a des familles, ils sortent de mois et de mois d'hôpitaux, de maladies, de combats. C'est dur, ils déposent les armes. Ouais. Donc, faut l'avoir à l'esprit, en fait, quand on reçoit une famille. Déchargez votre sac, on est là, on va vous aider, on va vous accompagner. Et que toutes les pompes funèbres aient accès aux familles, et que les familles aient accès à toutes les pompes funèbres. Ça, c'est la chose qui est très importante. Que toute société ait le droit de pouvoir exercer son métier sereinement.
C'est un peu le combat du moment, là ?
C'est un petit peu le combat du moment.
Par rapport au groupe,
aux assurances, aux groupes financiers, à tout ça. C'est ça qui fait que ça nous donne, au-delà de notre métier que l'on doit faire tous les jours, parce que nous, justement, on est présent. Moi, je reçois les familles. Moi, je ne suis pas une financière. Je suis quelqu'un du quotidien. J'organise, je monte mes convois, je m'occupe de mes commandes. Et à côté de ça, je dois faire ma communication, je dois continuer à exister. Et c'est vrai que les groupes financiers ont plus d'avantages à ce niveau-là, puisqu'ils ont des gens qui sont dédiés à ça, qui ont un marketing,
qui vont proposer des produits financiers.
Exactement, qui peuvent être
dans le lot d'un certain nombre d'autres produits.
Totalement. Oui, oui. Totalement. Donc c'est un petit peu le danger de notre métier, je pense.
Mais par exemple, imaginons la caisse d'épargne me vend une prévoyance obsèque. Derrière, il va bien falloir qu'ils s'adressent à des pompes funèbres. Donc c'est un groupe, c'est-à-dire ils vont aller automatiquement chez sais pas qui. C'est ça?
Ça, c'est un sujet.
c'est un vaste sujet
qui me préoccupe depuis de nombreuses années. Toute assurance, toute banque, toute mutuelle a vocation à faire des contrats.
Ouais.
Ça, il y a pas. D'accord. Nous aussi, puisqu'on en fait. Mais en prestation. Est-ce que les banques, assurances et mutuelles proposent de la capitalisation? Ce qui veut dire, c'est une somme. Vous allez dire, je veux protéger ma famille, je veux mobiliser une somme de 5 000, 10 000. Bon, très bien, la banque d'assurance dit, on a ça, vous cotisez pendant 10 ans, 15 ans, et vous aurez une somme au moment du décès. Mais ce qui se passe derrière, c'est que sans que la personne qui a fait le contrat sache qu'elle va être dirigée au moment du décès, ou les ayants droit, on va leur dire, vous allez dans telle ou telle entreprise, je veux aller chez Bertrand, si vous allez chez Bertrand, nous ne mettrons pas à disposition. Alors c'est totalement illégal, je le dis, et j'ai pas peur de le dire, je peux même l'écrire, c'est totalement illégal, mais ils le font, et c'est comme ça que ça se passe, et c'est un vrai combat, et notre profession ne s'en empare pas suffisamment. On parlait tout à l'heure de la crainte des petites entreprises de disparaître, mais c'est ça le vrai combat de nos, c'est de protéger les familles du libre choix. On n'a pas le droit d'imposer, c'est la loi d'ailleurs, on n'a pas le droit d'imposer à qui que ce soit d'aller là ou là, parce que la somme qui est à la disposition des ayants droit, c'est à eux de dire je veux la donner à Pompidou Bertrand ou à une autre entreprise parce que j'ai confiance en eux et je fais faire un devis qui me permet de rentrer dans le cadre peut-être du montant.
Exactement.
Alors que
ah oui, non, mais moi je pense qu'il y a un business en
c'est terrible
et on est
mais c'est un énorme sujet.
Ouais.
Pourrait, je peux vous dire, faire du bruit. Élise Lucet, si tu nous entends, tu as du boulot.
Ouais, d'accord. Il y a du boulot. Non, mais la réalité, elle est là.
Oui.
Envoyé spécial.
Bien sûr, il y a quelque chose à faire et qui n'est pas fait. Parce qu'il y a une loi, elle n'est pas respectée. Alors, c'est là le problème.
Notre crainte, elle est là. Bah, nous, aujourd'hui, notre crainte pour les années futures, c'est justement que les gens poussent de moins en moins notre porte. Il y a des choses qui sont à faire pour protéger...
Donc ça, c'est le combat les... des...
Protéger,
oui,
combat
protéger
des entreprises.
Protéger
l'indépendance.
Exactement. Et c'est enrichissant. Et les familles en ont besoin. Et même pour les groupes, ils se doivent d'avoir des petites entreprises qui leur disent, bah, nous, on fait comme ci, comme ça. Parce que ce ne sont pas eux les porteurs d'exemple. Ce sont toutes les entreprises qui, chacune à leur niveau, apportent quelque chose à ce métier. Et l'entreprise familiale, indépendante, tout du moins, a le droit justement d'être encore là et se doit d'être toujours là pour être un garde-fou, je pense aussi.
Vous avez déjà eu un
oubli?
Un raté?
Non. Inversion de corps, oui.
Mais pas de notre
comment
fête.
Ça
mais pas de notre fête. Il y a quelques années, c'était à la Coupe du Monde 98, parisienne. Dans une clinique parisienne. Le personnel, donc... va pour s'occuper d'un défunt dont on avait la charge.
Et regarder le match en même temps, c'est ça ?
Non, pas de... non, c'est moi qui regardais le match. Ils font la mise en bière, présentent le corps à la famille.
Mais c'est pas le bon.
Mais c'est pas mon père.
Oh !
Deux jours avant, une entreprise qui s'est occupée d'une personne musulmane, donc il y avait eu la toilette rituelle, et il s'était trompé de corps. Il avait pris le corps, il avait...
Parce qu'il y avait un problème au niveau du bracelet.
Il y avait un problème au niveau du bracelet et la clinique à l'époque n'était pas assez rigoureuse non plus.
Alors parce qu'en plus, la naissance
et là pour le fait, ils n'étaient pas de la même confession.
Ah ouais,
bah oui.
Ils n'étaient pas de la même confession.
Donc ça veut dire que la personne catholique qui s'est retrouvée avec une toilette rituelle.
Ah non, mais là c'est le procureur, le parquet,
c'est
une drôle d'aventure.
Peuvent...
Ça vous forge, je peux vous dire.
Oui, et là, vous dites waouh.
Ah oui, c'est terrible.
Bah c'est là
terrible.
Le droit.
C'est déjà arrivé aussi.
Pas le droit à l'erreur, ça s'en va.
Pas chez nous, mais je sais que c'est arrivé. Crématiser un corps qui n'était pas le bon. Eh oui. Ah oui, c'est une drôle d'aventure.
Imagine que des histoires comme ça, il y en a plein.
Oh, il y en a. Ouais.
Ah, ouais. Alors, ce podcast s'appelle Le Podium.
Oh.
Podium, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en haut du podium, obligatoirement.
Sympa.
Alors, qui aimeriez-vous faire monter avec vous sur votre podium ? On va dire que vous avez un podium commun. Faites monter qui vous voulez sur ce podium. Il peut être immense ou très petit.
Les gens de notre quotidien.
Ben
on va avoir ma mère, Kenel, mon conjoint.
Si tu me l'as
qui sont, voilà. Non, mais qui sont, voilà. Qui sont, nous, on est j'appelle ça un carré d'as. On est très, très proches les uns des autres. On s'apporte beaucoup de choses.
On se soutient parce que c'est un métier. On a besoin de
donc,
de
c'est
soutien.
Quand même un métier où, mine de rien...
Voilà.
On a besoin que l'extérieur soit joyeux,
complètement.
Présent, compréhensif, parce que les horaires...
La famille.
Ah, oui,
moi, on a une famille, une très belle famille, la famille Bertrand, qui frères et sœurs, mes cousins, mes cousines, tout ça, ce sont des personnes qui nous apportent beaucoup aussi dans notre quotidien.
Qui sont fiers de ce qu'on fait.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment fabuleux ce que vous avez réussi à faire, surtout que moi, je suis arrivé de Bretagne, ma petite Bretagne, la campagne et tout, avec peu de moyens, j'avais pas de diplôme particulier, quoi. J'avais un CAP, Donc, bon, comme quoi, on peut arriver dans la vie avec de la volonté, voilà.
Mais avec de la passion, parce
de
que
la
quand
passion,
on vous écoute, c'est surtout ça qui ressort. Bon, en commençant l'épisode... on est un peu
bah oui, il faut y aller quoi.
Et puis au final finalement c'est que de la gaieté, de la passion, ça qui est génial.
J'ai pris un plaisir immense à faire ce métier. C'était un métier fabuleux. J'ai rencontré des tas de gens que je n'aurais jamais pu rencontrer si je n'avais pas fait ce métier.
Ouais.
C'est ça que je me dis.
Bah, toi, tu aimais énormément Bernard Tapie. Ça a été quelqu'un qui t'a beaucoup inspiré.
Ah oui. Moi, j'aimais bien le personnage.
Quel honneur on a eu
vous
de pouvoir...
De
non, on n'a pas eu cette chance.
Non, c'est par le biais de...
Mais mais c'est extraordinaire d'avoir pu l'accompagner, d'accompagner sa famille.
Ah ouais.
Ouais, c'était vraiment quelque chose.
Oui, parce que c'est Bernard Tapie, il faut reconnaître, c'est quelqu'un qui était extrêmement ambitieux. D'ailleurs, il avait fait l'émission Ambition et ça me parlait. On va pas regarder.
On va retirer tout ce que les gens peuvent.
Ce qu'il a fait de bien ou de mal, mais il a fait des belles choses et il a inspiré des gens.
En tout cas, il était inspirant.
Inspirant par ça. Il venait d'en bas et ça, c'est beau, quoi. Des gens qui arrivent, qui partent comme ça d'en bas et qui disent, bah, voyez, c'est possible. C'est comme Guy de Graine. Tu ne feras jamais rien dans ta vie. Je trouvais ça extrêmement...
Non, mais comme quoi on peut se réaliser. Ce qui compte, c'est quand même l'énergie.
Ah oui, oui.
L'envie. Ouais. Mais cette passion, j'espère qu'elle sera transmise à votre fille, au moins.
Oui, et peut-être sur d'autres domaines, si jamais. Mais au moins, inspirez ça, parce que je vais parler aussi un petit peu de ma petite sœur, qui n'est pas dans le métier, qui fait de belles choses de son côté, et qui, elle, s'est inspirée de papa, parce que, voilà, notre père est quelqu'un de très, d'inspirant. Il nous a appris la rigueur. Réussir est très important, mais pas au détriment de la famille.
Oui, on est d'une génération où on poussait les gens. Aujourd'hui, prends ton temps, fais pas ci, fais pas ça. Moi, je suis d'une génération, il faut réussir, il fallait réussir et on réussit comment ? En bossant ou en faisant des études.
Mes enfants, j'espère que je leur transmettrai ça. Vraiment faire ce qu'on fait avec passion, envie et ça rejaillit sur les gens qui sont autour de nous. Ça, je pense que voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que toi, tu nous as transmis les choses.
Alors, une musique pour terminer, c'est vous qui choisissez. Parce que la musique aussi, c'est important dans les funérailles.
Oui, très important.
Les choix musicaux, c'est quelque chose qui doit être parfois
La musique de Bébel.
Surprenant.
Oui, la musique qu'il y a eu pour les obsèques de Jean-Paul Belmondo. Donc, la musique du film
Magnifique.
Magnifique. Ouais. Bah, cette musique... Elle était déjà émouvante déjà avant de faire ses obsèques, mais le jour de ses obsèques, ça a été extraordinaire. C'est une émotion.
Joué par la garde républicaine.
Ouais. Nous, on était au milieu de la cour des Invalides, avec la famille, avec son cercueil devant nous.
Enfin,
c'était beaucoup d'émotions et cette musique, pour moi, elle est.
Ah ben, nous marque.
Elle restera un air musical qui me parlera à toi aussi. Ouais. Et puis bon, Jean-Paul Belmondo.
C'était le magnifique.
Ah, c'était nous, on a eu la chance de le rencontrer avant.
Et vous êtes les professionnels.
Bien vu.
Succès, échecs, astuces et petits conseils.
Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
Un podcast à emporter partout.